Conan Doyle en jouant avec le feu. Je ne prétends pas expliquer ce qui se passa le 14 avril dernier au numéro 117 de Battery Gardens. Traduit en noir sur du blanc, mon opinion paraîtrait, j'imagine, trop absurde, trop grossière pour mériter considération. Mais qu'il se soit passé quelque chose, et quelque chose de nature à marquer sur chacun de nous pour le reste de sa vie, c'est ce qu'établit, avec toute la certitude possible, l'unanimité de 5 témoignages. Je me bornerai à un compte-rendu très exact, qui sera soumis à John Moy, Harvey Dodson et Mrs. Demer, et recevra aucune publicité s'il ne le confirme volontiers sous tous les points. Quant à Paul Luc, il faudra qu'il passe ma caution parce qu'il semble avoir quitté l'Angleterre. J'ai vu John Moy, l'associé principal, bien connu de la maison Moy, Moore & Sanderson, qui, dans le principe, dirigea notre attention vers les questions d'occultisme. Comme il advient souvent chez les hommes d'affaires durs et pratique, il y avait dans sa nature un certain mysticisme, par quoi il avait incité à l'examen, puis éventuellement à l'occupation de ces concevables phénomènes qui, avec beaucoup d'impostures et beaucoup de niaiseries, se groupent sous la commune désignation d'occultisme. Ses recherches, entreprises en toute liberté d'esprit, avaient malheureusement versé dans le dogme. Il était devenu fanatique et tranchant autant que dévot peut l'être. Il représentait dans notre petit cercle la catégorie d'hommes qui ont fait de ces singuliers phénomènes une nouvelle religion. Nous avions pour médium sa sœur, Mistress Delemer, la femme du sculpteur, dont le nom est en train de se révéler. L'expérience vous avait démontré qu'en ces matières, vouloir opérer sans médium était aussi vain que de vouloir en astronomie opérer sans télescope. Mais d'autre part, nous repoussions tous avec horreur l'idée d'introduire parmi nous un médium à gages. Homme ou femme, ne serait-il pas tenu de nous en donner pour notre argent, et la tentation de fraude ne serait-elle pas trop forte? Quel crédit mériteraient les phénomènes produits à raison d'une guinée par heure? Fort heureusement, Mario avait découvert chez sa sœur une nature de médium, c'est-à-dire qu'il la considérait comme une batterie de cette force magnétique animale qui est la seule force d'énergie assez subtile pour que nous agissions sur elle du plan spirituel comme nous agirions du plan matériel. Il va de soi qu'en s'exprimant ainsi, je n'entends pas faire une pétition de principe. J'indique simplement par quelle théorie nous expliquions nous-mêmes, à raison ou à tort, ce que nous voyons. La dame venait sans un sentiment bien formel de son mari. Et quoiqu'elle ne restât jamais une très grande force psychique, nous en obtenions au moins ces phénomènes usuels de transmission de pensée, si puéril et mystérieux, tout ensemble. Chaque dimanche soir, nous nous réunissions dans l'atelier d'Harvey Dodson à Battery Gardens, la maison qui fait le coin de Eaton Park Board. L'œuvre de Harvey Dodson, par la qualité d'imagination dont elle rendait témoignage, semblait trahir chez l'artiste la passion de l'ouïe et du sensationnel, de l'outré. Et à l'origine, certains pittoresques l'avaient attiré vers l'étude de l'occultisme. Mais son attention ne tarda pas à tomber en arrêt devant quelques-uns des phénomènes dont je parlais tout à l'heure. Il en vint rapidement à se convaincre que ce qu'il avait pris pour une amusette, pour un passe-temps d'après-dîner, constituait une réalité formidable. C'était un homme d'un cerveau remarquablement lucide et logique, un vrai petit-fils des ancêtres, le célèbre professeur Scotch. Et il représentait lui seul dans un groupe l'élément critique, l'homme sans préjugés, préparé à suivre les faits aussi longtemps qu'il put les voir et ne laissant pas ses thèmes prendre l'avance sur ses données. La circonception agitait moi autant que moi et le déversait par sa foi robuste, mais chacun à sa manière, ils apportaient l'un et l'autre dans la question une même ardeur. Et moi, que représentais-je moi à vrai dire? Non pas le dévot, non pas la critique scientifique, mais plus justement le dilettante, préoccupé de toujours rester dans les mouvements, je me félicitais de toute sensation nouvelle qui me fit sortir de moi-même. Sans disposition personnelle à l'enthousiasme, j'ai des enthousiasmes, je les aime. Les propos de Boyle m'emplissaient d'un vague bien-être, comme si j'eusse senti par eux que nous tenions le clé des portes de la mort et l'atmosphère apaisante des séances, toute lumière voilée, me causait un délire. J'y assistais parce que je m'amusais. Ce fut, comme je l'ai dit, le 14 avril dernier que survint l'événement très singulier qui m'occupe. En arrivant à l'atelier, j'y trouvais Mistress Delemer qui avait pris le thé vers l'après-midi avec Mrs. Harvey de Lipson. Pas d'autre homme que Deacon lui-même, en compagnie de qui les deux dames examinaient un tableau commencé sur un chevalet. Oh, je ne me pique pas de connaissances en art. Il n'a jamais fait profession de comprendre ce qu'Harvey Dixon veut mettre dans ses peintures. Mais je voyais bien ce qu'il y avait d'ingéniosité inventive dans cette composition où entraient des fées, des animaux et des figures allégoriques de toutes sortes. Les dames se répandaient en louanges. Assurément, le tableau était d'une belle couleur. « Qu'en pensez-vous, Markham ?» me demanda la peintre. « Oh, j'avoue que ça me dépasse, » répliquai-je. « Ces bêtes, qui sont-elles ?»« Oh, des monstres mythiques, des créatures imaginaires, des emblèmes héraldiques, toute une espèce de cortège fantasque. Avec un cheval blanc en tête ?»« C'est pas un cheval blanc, » fit-il d'un ton d'humeur qui me surprit, car il était gai d'ordinaire et se prenait rarement au sérieux. Mais qu'est-ce alors? Mais comment voyez-vous là un cheval? C'est une licorne. Je vous ai parlé d'animaux héraldiques. Ne reconnaissez-vous pas celui-là? Désolé, Deacon, répondis-je, car il avait l'air vraiment contrarié. Mais sa propre irritation le fit rire. Excusez-moi, Markham, dit-il. Le fait est que je me suis donné un mal fou terrible pour cette bête. J'ai passé la journée à le peindre, à le repeindre, à essayer d'imaginer l'aspect que pourrait avoir une licorne vivante et bondissante. J'y suis arrivé à la fin, comme je l'espérais. De sorte qu'en vous trompant, vous m'avez touché au point sensible. « Mais oui, naturellement, c'est une licorne !» m'écriai-je. Car je le sentais très affecté de mon incompréhension. Et voilà, parbleu, la corne. Mais j'avais encore vu cet animal que sur les armes royales, il n'y avait jamais songé. Quant aux autres, ce sont, n'est-ce pas, des griffons, des bassins, des dragons de toute espèce. Oui, oui, mais de ce côté-là, pas de difficulté. Je n'ai d'ennui qu'avec la licorne. Alors, assez parlé de ça jusqu'à demain. Il retourna la toile sur le chevalet et nous causâmes d'autres choses. Moïre fut en retard ce soir-là. Quand il arriva, il amenait avec lui, à notre vive surprise, un Français, courtois et robuste, qui nous présenta sous le nom de Monsieur Paul le Duc. Je dis à notre vive surprise, car nous tenions pour principe que toute immixtion étrangère dans notre cercle spirituel en dérangeait les conditions et y introduisait un élément de doute. Nous savions pouvoir nous fier les uns aux autres, mais la présence d'un intrus viciait les résultats de ses expériences. Cependant, Moir nous réconcilia très vite avec l'idée d'une innovation. Monsieur le Duc était un adepte réputé de l'occultisme, un voyant, un médium et un mystique. Il voyageait en Angleterre avec une lettre d'introduction que lui avait donné pour moi Mort, le président des frères de la Rose-Croix de Paris. Et si moi il l'avait amené à une petite séance, à la nôtre, si nous devions nous servir d'homme de sa présence, quoi de plus naturel? C'était, je le répète, un homme petit et solide, avec une large figure lisse et glabre, n'ayant rien de remarquable que deux grands yeux clairs, en velours, qui regardaient vaguement et fixement devant eux, bien habillé au surplus, de bonne manière. Mistress Deacon, qui avait des prétentions prévention contre nos recherches, quitta la chambre. Alors nous fûmes une demi-obscurité, selon notre habitude, et nous rapprochâmes nos sièges de la table d'acajou carrée qui occupait le centre de l'atelier. Bien que très réduite, la lumière restait suffisante pour nous permettre de nous voir distinctement les uns les autres. Je me souviens que même je pouvais observer les curieuses petites mains potelées que le Français étalait sur la table. « À la bonne heure, » dit-il. « Voilà des années que je n'ai pas pris place à une table dans les mêmes conditions que ce soir. Cela m'amuse. Vous êtes médium, madame? Avez-vous jusqu'à la catalepsie ?»« Oh, pas précisément, » dit Mrs. Demers. Mais j'ai toujours l'impression d'être d'avoir très forte envie de dormir. C'est le premier stade. Abandonnez-vous entièrement et la catalepsie arrive. Une fois la catalepsie arrivée, votre âme se précipite au dehors. Tandis que du dehors se précipite en vous une autre âme avec qui on entre ainsi en correspondance directe par la parole ou l'écriture. Vous remettez à autrui le gouvernement de votre machine. Hein? Qu'est-ce que des licornes peuvent avoir à faire ici? Harvey Deacon sursauta. Le Français bougeait lentement la tête et ses yeux, autour de lui, scrutaient les ténèbres qui drapent les murs. « Drôle de chose, » fit-il, « toujours des licornes. Mais qui est donc à penser aussi fortement à un sujet aussi bizarre ?»« Mais c'est merveilleux !» s'exclama Deacon. « J'ai toute la journée essayé de prendre une licorne. Comment le savez-vous »« Vous avez pensé aux licornes dans cette chambre ?»«
En effet. »
Mais mon cher monsieur, les pensées sont des choses. Quand vous imaginez une chose, vous en faites une, l'ignorez-vous? Je peux voir, moi, vos licornes, parce que ce n'est pas seulement avec les yeux que je peux les voir. Et voulez-vous dire que rien qu'en y pensant, je crée une chose qui n'a jamais eu d'existence? Certainement. C'est le fait qui gît sous tous les autres faits. Et c'est la raison pourquoi une pensée de mal constitue un danger par elle-même. Vos licornes sont sur le plan astral, je suppose, interrogea Moir. Mais tout cela, ce sont des mots, mes amis. Elles sont là, quelque part ou partout. Moi-même, je ne saurais le dire. Je les vois, je ne pourrais pas les toucher. Et vous ne pourriez pas nous les faire voir. Ben, ce serait les matérialiser. Tenez, il y a une expérience à faire, mais le pouvoir manque. Voyons un peu de quel pouvoir nous disposons. Nous agirons en conséquence. Me permettez-vous de vous placer à ma guise? Et vous en savez beaucoup plus long que nous sur ce chapitre, dit Harvey Dixon. Je vous donne pleine autorité. Les conditions peuvent n'être pas bonnes. Bon, essayons nos moyens. Madame voudra bien garder sa place. Je me mettrai près d'elle. Monsieur, que voici à côté de moi. Monsieur Bauer se mettra de l'autre côté de madame, car il convient d'alterner les blonds et les bruns. Là. Et maintenant, avec votre permission, je vais éteindre toutes les lumières. Mais quel avantage y trouvez-vous? Demandai-je. Mais la force que nous utilisons est une vibration de l'éther. La lumière aussi en est une. Supprimons la lumière, nous gardons pour nous tous les fils. Vous ne craignez pas le noir, madame. Quel plaisir qu'une pareille séance. D'abord, l'obscurité parut absolue. Mais au bout de quelques minutes, nos yeux s'y habituèrent. Juste assez pour nous permettre de nous voir les uns les autres, très confusément, certes, car je n'apercevais dans la chambre rien que le cercle immobile et sombre des figures. Tous nous prenions la chose à cœur beaucoup plus que jamais auparavant. Vous mettrez vos mains devant vous. Oh, il n'y a pas à craindre que nous nous touchions, étant si peu nombreux devant une table si grande. Vous, madame, vous replierez sur vous-même. Et si le sommeil vient, vous ne lutterez pas. Du silence à présent. Et attendons. Alors, en silence, nous attendîmes, fixant l'ombre devant nous. Une pendule faisait tic-tac dans le vestibule. Un chien au loin aboyait par intermittence. Une fois ou deux, un car passa bruyamment dans la rue et l'éclair de ses lanternes par intervalles des rideaux déchira gaiement l'obscurité de nos ténèbres. J'éprouvais ces malaises physiques Je m'avais rendu familier nos séances précédentes. Froid dans les pieds, picotement dans les mains, chaleur dans les jambes, dans les paumes, impression de courant d'air dans le dos. Il me venait de trousser avant-bras, et plus spécialement, me semblait-il, à l'avant-bras gauche, qui était le plus rapproché de notre visiteur, d'étranges petits élancements, dus sans doute à quelques troubles du système vasculaire, mais dignes à moins d'attention. En même temps, j'avais le sentiment d'une expectative presque douloureuse, et le silence sévère gardé par mes compagnons me faisait deviner chez eux une tension nerveuse non moindre que la mienne. Et tout d'un coup, il y eut dans l'obscurité un son bas et sifflant, la respiration mince et pressée d'une femme.
Puis la respiration se fit encore plus pressée et plus mince, comme entre des dents serrées. Puis elle s'arrêta dans un grand soupir, accompagné d'un sourd bruissement de robe.
« Qu'y a-t-il ? Est-ce que tout va bien ?» demanda quelqu'un dans l'ombre.
« Oui, dit le Français, tout va bien. C'est madame. Elle vient de tomber en catalepsie. Maintenant, messieurs, si vous voulez bien vous tenir tranquille, vous verrez, j'imagine, quelque chose qui vous intéressera. » Encore le tic-tac dans le vestibule, encore la respiration du médium, plus profonde à présent et plus pleine. Encore, par instant, la lueur fugitive est toujours plus agréable des lanternes d'un Hamson. Sur quel abîme nous jetions un pont ! D'un côté, le monde éternel, dont le voile se soulevait à demi, et de l'autre, les caps de Londres. La table frémissait de pulsations puissantes. Sous nos doigts, elle se balançait avec certitude, en cadence d'un mouvement facile, plongeant et creusant. Toute sa substance rendait des petits claquements secs, de petits craquements brusques, les crépitements d'un feu de fil ou d'un feu de salve, les pétillements d'un fagot qu'on allume par une nuit glaciale. « Oh, il y a beaucoup de pouvoir !» annonça le Français. « Je le constate par la table. » J'avais cru d'abord à une illusion personnelle, mais tout le monde put maintenant s'en apercevoir comme moi. Une lumière phosphorescente, d'un gris jaunâtre, je devrais dire la vapeur lumineuse plutôt qu'une lumière, flottait au ras de la table. Elle roulait, s'enroulait, ondulait, en plis de transparence blafarde, tournait en spirale comme une fumée. Je distinguais sa lueur sinistre, les doigts du Français, blancs et carrés au bout. « Ça marche !» criait-il. « C'est splendide !»« Appelons-nous l'alphabet ? » demanda Moïse. « mais non, nous avons mieux à faire. Oh, c'est vraiment un jeu grossier que d'obliger la table à s'incliner pour chaque lettre. Avec un médium comme madame, mais nous devons faire mieux. Oh oui, nous ferons mieux, prononça une voix. Qui est-ce ? Quelle est la personne qui a parlé ? Est-ce vous, madame ? Oh non, pas le moins du monde. Mais c'est madame qui a parlé. Mais ce n'était pas sa voix. Et alors est-ce vous, Mrs. Delmer ? Ce n'est pas le médium, mais c'est le pouvoir qui agit par organe du médium. Intervint l'étrange, la profonde voix. Mais oui, Mrs. Delmer, j'espère qu'elle ne peut pas avoir de fâcheuses conséquences pour elle. Elle est heureuse sur un autre plan d'existence. Elle a pris ma place, comme j'ai pris la sienne. Mais qui êtes-vous? Peu vous importe. Je suis quelqu'un qui a vécu comme vous et qui mourra comme vous mourrez. Nous entendîmes au dehors les roues d'un cab. Puis la voiture s'arrêta toute proche. Il y eut une discussion de pourboire, des sommeillements de cocher. Le nuage gris-jaune continuait de tordre ses minces volutes sur la table. Sans bruit nulle part, il luisait conflictement, conséquemment et confusément dans la direction du médium. On lui dit qu'il s'agglomérait devant Mistress de la Mer. Une impression de peur et de froid me saisit au cœur. Il me sembla que nous approchions avec une légèreté cavalière le plus auguste des sacrements, cette communion avec la mort dont parlent les pères de l'Église. « Ne croyez-vous pas que nous allons trop loin ?» m'écriai-je. « Ne serait-il pas temps de lever la séance ?»« Et tous les pouvoirs sont faits pour qu'on en use, » formula Harvey Lincoln. « Si nous pouvons continuer, nous le devons. Chaque nouveau progrès de la connaissance a passé d'abord pour illicite. Il est parfaitement légitime et convenable que nous cherchions à connaître la nature de la mort. Oui, parfaitement légitime et convenable, dit la voix. Voyons, que pourrions-nous demander? S'écria Moy, très excité. Une preuve. Voulez-vous me donner une preuve? Une preuve de votre présence réelle? Quelle preuve désirez-vous? Eh bien, par exemple. J'ai quelques pièces de monnaie dans ma poche, voulez-vous me dire combien? Nous venons vous enseigner, non pas deviner de puériles énigmes. Attrapez, monsieur, mordit le français. L'esprit parle de bon sens. Mais ceci est une religion et non pas un jeu d'esprit, reprit la voix d'une voix froide. En effet, dit Moïc. « C'est bien ainsi que je l'envisage. Désolé de vous avoir posé cette stupide question. Ne saurais-je pas qui vous êtes? Pour que vous importe. Mais êtes-vous esprit depuis longtemps? Oui. Depuis combien de temps? Oh, nous ne calculons pas la durée comme vous. Nos conditions diffèrent. Êtes-vous heureux? Oui. Vous ne voudriez pas revenir à la vie? Oh non, non, certes. Avez-vous des occupations? Mais comment sans occupation pouvons-nous être heureux? Mais que faites-vous? Je vous ai dit que nos conditions sont absolument différentes. Et pouvez-vous nous donner une idée de vos travaux? Nous travaillerons pour notre propre perfectionnement et pour l'avancement des autres. Mais vous est-il agréable de venir ici ce soir? J'y viens avec joie, si en y venant je puis faire quelque bien. Faire le bien, c'est donc votre but. Mais c'est sur chaque place le plan de toute existence. Vous entendez, Macam? Voilà qui répond à vos scrupules. En effet, je ne gardais plus un doute qu'un doute. Je n'éprouvais plus que de l'intérêt. Dans votre vie, connaissez-vous la douleur? Demandai-je. Non, la douleur est chose corporelle. Mais l'affliction mentale? Oui. On peut toujours être inquiet ou triste.
Rencontrez-vous des amis que vous avez connus sur la Terre? Quelques-uns.
Seulement quelques-uns?
Oui, seulement les sympathiques.
Et les époux se retrouvent-ils?
Quand ils se sont vraiment aimés.
Et dans le cas contraire?
Mais ils ne sont plus rien l'un pour l'autre.
Il faut donc qu'il y ait affinité spirituelle.
Évidemment.
Il faut donc qu'il y ait affinité spirituelle.
Évidemment.
Et ce que nous faisons, est-il bien?
Si vous le faites dans le bon esprit.
Et qu'entendez-vous par mauvais esprit?
L'esprit de curiosité et de légèreté.
Et peut-on résister au mal?
Un mal très sérieux.
Et quelle sorte de mal?
Ben vous pouvez déchaîner des forces sur lesquelles vous n'avez pas d'empire.
Des forces mauvaises?
Des forces inéprouvées?
Vous dites qu'elles sont dangereuses, dangereuses pour le corps ou pour l'âme?
Oh, quelquefois pour l'un et pour l'autre.
Il y eut un silence. Et l'obscurité parut devenir plus épaisse pendant que le brouillard gris-jaune nouait ses fumées par-dessus la table.
Auriez-vous quelques questions à poser, Moy? Demanda Deacon.
Oh, une seule, oui. Est-ce que l'on prie dans votre monde?
On prie dans tous les mondes.
Pourquoi?
Parce que c'est reconnaître des forces extérieures à soi-même.
Mais à quelle religion appartenez-vous là-bas?
Oh, nous différons dans nos religions, comme vous.
Vous ne possédez pas la certitude.
Non, nous avons seulement la foi.
Ces questions de religion, interrompit le Français, vous intéressent, vous autres Anglais? Qu'elles un peuple grave.
Pour nous, elle manque de gaieté.
Il me semble qu'avec le pouvoir dont nous disposons, serions en mesure de tenter quelques grandes expériences, de quoi causer ensuite.
Mais il ne serait, dit Moy, rien à y avoir de plus intéressant que ce qui nous occupe.
À merveille, si c'est votre avis, acquiesça le Français d'un ton aigre.
Pour ma part, tout ceci me fait l'effet du rebattu.
Puisqu'une grande force nous est donnée ce soir, j'aimerais la mettre à l'épreuve. Si vous avez d'autres questions à poser, posez-les. Après quoi, nous pourrons toujours essayer quelque chose.
Mais le charme était rompu. Nous posâmes en vain question sur question.
Le médium resta muet sur sa chaise. Seul le bruit profond et régulier de respiration trahissait sa présence. Et sur la table, la fumée ne cessait pas de tournoyer.
Oh, vous avez troublé l'harmonie!
N'attendez pas de réponse.
L'ombre parut redoubler dans la chambre avec le silence.
Le même sentiment d'appréhension qui avait si sourdement oppressé au début de séance me posa de nouveau sur le cœur. Les cheveux me picotaient aux racines.
« Ça opère! Ça opère !» cria le Français.
Il se fit en savoir comme un déchirement. Et je compris que chez lui aussi, toutes les cordes étaient tendues à rompre.
Le brouillard transparent s'écarta peu à peu de la table, se mit à flotter mollement autour de la pièce et alla s'amonceler dans le coin le plus reculé et le plus sombre, pour finir par s'y agréger en un corps brillant, en un étrange
et mobile noyau de lumière. Mais la lumière de lumière non écœurante, non éclatante, est douée d'un éclat propre sans faculté de rayonnement. Il avait passé du gris jaune à un rouge sinistre. Puis, sur ce noyau, s'enroula une substance noirâtre et fugineuse qui épaissit, durcit, durcit encore plus dense, encore plus noire. Puis la lumière s'évanouit, absorbée par ce qui était formé autour d'elle. Ah, parti ! Silence ! Il y a quelque chose dans la chambre. Dans le coin où avait paru la lumière, nous entendîmes quelque chose qui soufflait bruyamment et se démenait dans les ténèbres. « Mais qu'y a-t-il, duc ? Qu'avez-vous fait ?»« Ça va, rien à craindre. » La voix du français vibrait d'émotion. « Juste ciel. Moi, il y a un gros animal dans la chambre, là, tout près de ma chaise. Éloignez-vous, éloignez-vous !» C'était Deacon qui parlait. Puis vint le bruit d'un choc sur le corps dur. Et ensuite, oh, mais comment dire ce qui arriva ensuite ? Quelque chose d'énorme se heurtait à nous dans le noir. Se cabrait, piaffait, écrasait, bondissait, s'ébrouait. La table vola en éclats et nous prîmes la fuite dans tous les sens. L'énorme chose grondait, nous bousculant, se levant avec une force horrible d'un bout à l'autre de la chambre. Nous poussions tous des cris d'épouvante, mais nous traînions sur nos mains, sur nos genoux, cherchant à nous dérober aux attaques. Je ne sais quoi se posa sur ma main droite et mes os s'écrasèrent sous la pression. « De la lumière, de la lumière !» cria quelqu'un. « Non, vous avez des allumettes. Moi, vous avez des allumettes, des allumettes. Mais je n'en ai pas une seule. Delcon, où sont les allumettes ? Les allumettes, pour l'amour de Dieu ! Oh, je n'arrive pas à les trouver. Voyons le français, ah, où était cela ? Oh, c'est au-dessus de mes moyens. Oh, mon Dieu, je ne puis plus l'arrêter. La porte, où est la porte ? Ma main, par bonheur, en tâtonnant dans la nuit, trouva la poignée. La chose soufflante, ronflante, galopante, passa d'un bond devant moi et elle a donné de la tête contre la cloison qui rendit un bruit terrible. Je tournai la poignée et nous fûmes dehors à la minute, la porte fermée derrière nous. À l'intérieur, il y eut un épouvantable fracas d'objets mis en pièces. Mais qu'est-ce que cela, au nom du ciel, qu'est-ce ? Mais un cheval, j'en ai vu quand la porte s'ouvrait. Oh, mais Mrs. de la mer. Oh, il faut aller la sauver. Venez, Wazman, vite, vite. Plus nous décidons, plus vite nous décidons, plus nous serons du courage. La porte ouverte, brusquement, nous nous précipitâmes. Et nous trouvâmes Mrs. Delamer étendue sur le plancher parmi les débris de la chaise. Nous la relevâmes, l'emportâmes au plus vite, et comme nous arrivions dans la porte, je jetai derrière moi un regard à la dérobée. Des étranges yeux dardaient sur nous leurs flammes. Des sabots claquèrent. Je n'eus que le temps de refermer la porte. Un choc violent la fendit de haut en bas. Oh, ça va passer au travers, ça passe. Un autre choc, et par la brèche de la porte, quelque chose se fit jour. Une longue pointe blanche qui luisait sous la lumière des lampes. Elle brilla un instant devant nous, puis, avec un bruit sec, elle disparut. « Hâtez-vous, hâtez-vous, par ici !» ordonnait un grand cri à Harvey Dixon. « Remportez-la, par ici, vite !» Nous avions cherché asile dans la salle à manger et refermé la lourde porte de chêne. Nous étendîmes sur le sofa, mistress de l'herbe, sans connaissance. Pendant ce temps, Moyer, le rude brasseur d'affaires, s'affaissait évanoui sur le tapis du foyer. Harvey Dixon, blanc comme un cadavre, avait des convulsions d'épileptique. Nous entendîmes se briser la porte de l'atelier. D'un bout à l'autre du vestibule, ce furent des allées et venues, remuantes et trépignantes, qui emplirent la maison d'un furieux vacarme. Sa tête dans les mains, le Français sanglotait comme un enfant épouvanté. « Que faire ?» demandai-je, en le secouant durement par les épaules. « Si nous prenions un fusil ?»« Non, 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 le pouvoir va cesser. Cela va finir. » Je ne savais pas comment ai-je prévu la terreur qui l'affole. Vous en êtes cause. Vous l'avez frappé. Tout d'un coup, Harvey Dixon sursauta. Dieu du ciel ! Un cri terrible avait fait retentir la maison. Oh, c'est ma femme. Tant pis, je sors. Dussé-je avoir affaire au diable ? Ouvrant la porte, il s'élança. À l'extrémité du couloir, en bas de l'escalier, Mistress Dixon gisait inanimée, terrassée par ce qu'elle avait vu. Nulle trace de rien d'autre. Nous regardâmes autour de nous avec horreur. Partout l'immobilité et le silence. Je m'avançais lentement vers la porte de l'atelier, noire et béante, attendant à chaque instant d'avoir sortir quelque abominable forme. Rien ne venait. Un calme absolu régnait dans la pièce. Le regard tendu, le souffle au bout des lèvres, nous allâmes jusqu'au seuil et scrutâmes les ténèbres silencieuses. Elles n'étaient plus partout des ténèbres. Un nuage lumineux, avec un centre incandescent, voltigeait dans un angle. Lentement, il diminua d'éclat et de consistance, devint de plus en plus mince, de plus en plus pâle, puis la même obscurité profonde réenvahit l'atelier, et à la minute même où tremblota le dernier rayon de la lueur sinistre, le Français poussa un cri de joie. « Oh, la bonne heure ! Personne de blessé ! Rien que la porte brisée et les dames effrayées. Mais nous avons fait, mes amis, ce que personne n'avait jamais fait encore. Eh bien, dit Harvey Dixon, autant que je pourrais l'empêcher, ça ne se fera plus, oh non, je vous l'assure. Et voilà ce qui advint le 14 avril dernier au 17 de Manorley Gardens. J'ai commencé par dire que cela me paraît trop grotesque pour que je réponde de ce qui vraiment se passa. Je donne mes impressions, ou plutôt nos impressions, puisqu'elles sont corroborées par Harvey Dixon et Jean Morier, pour ce qu'elles valent. Libre à vous, s'il vous plaît, d'imaginer que nous fûmes victimes d'une extraordinaire et savante mystification. Ou de croire avec nous que nous subîmes une réelle et terrifiante épreuve. peut-être encore mieux informé que nous en ces questions d'occultisme, aurez-vous à nous citer quelque chose d'analogue? En ce cas, une lettre adressée à M. William Madham, 46, dans l'Albanie, vous aiderait à jeter un peu de lumière sur des faits encore très obscurs pour nous.